Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, faite à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale », paru il y a quelques années aux éditions Ellipse à Paris et toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous ? Bien, nous en sommes au chapitre 7 de ce livre qui s'appelle « Désymbolisation et unidimensionnalité ». La semaine dernière, nous avons évoqué le portrait que fait Nietzsche du dernier homme, l'homme moderne, celui dont l'âme est morte, un homme matérialiste, un homme qui n'est plus ouvert à la transcendance et au dépassement de soi, vous voyez. Et nous avions terminé l'émission la semaine dernière sur l'éloge justement de la joie, hein, à la différence du bonheur qui est assez chimérique, hein, et du plaisir qui est localisé, je vous avais souhaité d'éprouver la joie qui est proprement humaine. Toutes les grandes cultures ont montré ce que Rimbaud appelle les tristesses du bonheur, hein, l'insatisfaction, l'angoisse, l'exigence humaine ou la transcendance, elles les ont symbolisées. Alors, passer dans le langage, incarné dans des constructions imaginaires complexes, ces notions ont habité l'âme des hommes pendant longtemps. Je pense par exemple à la représentation de l'homme qui est impliqué dans la phrase de l'Évangile « Qu'as-tu fait de ton talent ?» vous voyez, ou encore à la parole du Dies Irae, poème médiéval, je le dis en latin d'abord, « Quid sum miser tunc dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus ?» C'est-à-dire, que dirais-je, malheureux que je suis, de qui invoquerai-je l'aide quand le juste à peine sera en sécurité? Il s'agit justement de la comparution de l'homme lors du jugement dernier, vous voyez. Quid sum miser tunc dictus? Qu'est-ce que je dirai, hein, lorsque on me demandera des comptes? Vous voyez, je pense souvent que je suis dans la vie comme dans un compartiment de chemin de fer. Le contrôleur frappe à la vitre, c'est un petit bruit métallique. C'était le temps où justement où il y avait des compartiments, précisément. Alors le contrôleur dit « billet s'il vous plaît ». Alors quel billet? Nous devons présenter notre titre de transport, sinon nous sommes en faute et nous devons payer une amende. Eh bien, il me semble que dans la vie, il en est ainsi. Hein. Quel billet pourrons-nous présenter? Quel titre de transport présenter quand on nous le demandera? Quelle justification? Quel droit à être, véritablement? Il faut pouvoir répondre à l'injonction du contrôleur, même si, et ça c'est paradoxal, on ne croit pas au contrôleur. Hein. Moi je pense qu'on ne sera jamais contrôlé, mais je me dis qu'est-ce que j'ai fait qui me fait que je puisse mériter de cheminer dans la vie? Quel titre de transport ai-je à produire, hein? Qu'as-tu fait de ton talent? Ça aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une parabole terrifiante, hein, terrifiante. Donc, et dans l'Évangile selon Thomas, elle est à notre forme. Hein, à celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il n'a pas, lui sera enlevé. Hein, et ce qu'il n'a pas le fera périr, vous voyez, dit l'Évangile selon Thomas. Donc, voilà. Là, c'est une position assez paradoxale, parce que d'un point de vue agnostique ou athée, on ne pense pas à... au jugement. Hein. On pense que le jugement n'existe pas. Mais on continue justement de croire à cette transcendance, ce désir de dépassement de soi. Regardez comment Sartre termine son texte « Les mots hein. ».« Griselidis pas morte, pardaillant m'habite encore, Estrogoff, il ne relève que de Dieu, et je ne crois pas en Dieu, allez vous y reconnaître. » C'est-à-dire, Griselidis et Pardaillant, ce sont les livres d'aventure que le jeune Sartre lisait et qui l'ont ébloui en quelque sorte, hein, et qui continuent d'exister en lui, dans son âme, à la fin de sa vie. Alors Sartre étant athée, hein, ne croit pas du tout qu'il y aura un jugement dernier, etc. Mais il dit, ces textes ne relèvent que de Dieu, et je ne crois pas en Dieu, allez vous y reconnaître. Et oui, c'est une position paradoxale. Hein. Toute l'œuvre de Kafka, par exemple, c'est une obsession de la justification. Mais en fait, cette obsession, elle a sa source dans l'âme humaine. Hein. Lorsque K a peur des fonctionnaires du château, K c'est le héros du château de Kafka, hein, eh bien les fonctionnaires sont menaçants. Mais lorsque K prend de l'assurance, alors le château recule, les fonctionnaires reculent. Donc ça c'est une affaire entre nous et nous-mêmes. Hein. Mais tout cela, toute cette structure complexe, cette obsession de transcendance, s'effondre quand l'homme se satisfait de lui-même et de ce qui là et quand ses représentations sont si proches de lui-même qu'il se reconnaît absolument en elle, qu'il s'admet tel qu'il est. Hein. Il n'a plus en face de lui de symbole, mais un miroir. Alors, les représentations que notre époque se fait d'elle-même sont totalement proches de l'homme. Il n'y a plus aucune distance entre ce qu'elle propose à l'homme et ce qu'il est. Plus rien n'est symbolisé, aucun dépassement n'est suggéré. Il n'y a que reproduction de ce qui est. C'est pour cela que nous parlons ici du remplacement justement du symbole par le réel des choses. Prenez la croix pour un chrétien, c'était un symbole fort. Elle symbolisait une tension, un modèle de vie, au fond inatteignable, qui justifiait cette tension. Mais au contraire, aujourd'hui, les images, par exemple les images de la publicité, ne renvoient qu'à notre monde, au monde que nous habitons, que nous connaissons bien, pour le fréquenter familièrement, quotidiennement. Par exemple, un pot de yaourt dont je vois l'image, je peux, si je veux, tendre la main et l'atteindre, vous voyez, hein. Donc il y a une différence entre le symbole qui propose un idéal de vie et l'image incarnée dans le réel que nous connaissons, qui ne nous renvoie que notre propre image, comme un miroir, vous voyez, un miroir narcissique. Cassirer, un philosophe néo-kantien, disait « il faut vivre par le symbole » ou mourir par la chair. Hein. Eh bien, la culture d'aujourd'hui n'est plus une culture de l'âme. Hein. Admettre la vie telle qu'elle est et s'admettre telle qu'on se voit, avec au fond le plus grand cynisme, tel est le regard du dernier homme dont j'ai parlé lors de la dernière émission et dont Nietzsche faisait un portrait totalement effrayant. Il disait, Nietzsche, le plus méprisable des hommes est celui qui ne sait plus se mépriser lui-même. Vous voyez, hein. Donc, alors, on peut dire qu'en faveur de la vie, aujourd'hui, on perd les raisons de vivre. Et un homme, c'est un satiriste, comme Juvénal, dans le monde antique, il avait dit « Et propter vitam, vivendi perdere causas ». Et pour la vie, vivre les raisons de vivre, perdre les raisons de vivre, pardon. C'est dans les satires de Juvénal, au livre 8, la satire numéro 84, hein, ou le vers 84 plutôt, hein, satire 8, 84. Le vers 84, pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Bien sûr, je force le trait, hein, mais lorsque Zarathoustra présente le miroir, justement, du dernier homme à la foule, il voudrait que la foule recule d'horreur, hein, et pour rien au monde ne veuille être ce qu'elle voit. Mais non, la foule, au contraire, elle veut être ce dernier homme, hein, et elle tient quitte du surhomme, elle s'en moque du surhomme ou du surhumain, hein. Alors, ce dernier homme de Nietzsche, il me semble qu'il ressemble beaucoup à cet homme masse ou à cet homme moyen dont José Ortega y Gasset a tracé le portrait psychologique au chapitre 11 de son livre « La révolte des masses »,« La rébellion des masses ». Il s'agit du portrait du seigneurito satisfait, c'est-à-dire le fils de famille, l'héritier, satisfait de son sort. Et si l'on étudie la structure psychologique de ce nouveau type d'homme, l'homme masse, on trouve en premier lieu, l'idée que la vie est facile, aisée, sans aucune limitation. Et toutes les constructions symboliques traditionnelles concernant le destin, le fatum et son poids sur la vie, le mal, le tragique et la finitude, disparaissent en même temps que l'idée de culpabilité. La mort, par exemple, est devenue de nos jours un tabou, hein. On ne veut pas la voir. Elle était pourtant présente dans toutes les cultures, dont elle était le soubassement ou le substrat. La mort, c'est la musagète de toute philosophie, selon l'expression de Schopenhauer, hein, dans Métaphysique de la mort. Mais aujourd'hui, elle est escamotée, on ne veut plus la voir, et tout se passe comme si, ayant été autrefois une nécessité en d'autres temps, hein, elle devenait ici et maintenant un scandale, quelque chose d'inadmissible. Une culture au sens propre du mot se soumet à la mort, à l'inéluctable. On le voit bien dans La mort d'Ivan Illich de Tolstoï. Mais une sous-culture regarde ailleurs. Autrefois, on mourait chez soi, entouré de ses proches. Il y avait une convivialité de la mort qui était marquée par le repas d'après les funérailles. La mort était symboliquement intégrée dans le grand cycle des vies et du recommencement. Comme les feuilles tombent à l'automne et repoussent au printemps, ainsi se succèdent les générations humaines. La mort est ce qui prend et ce qui donne, ce qui prend la vie et ce qui la redonne. Le don de vivre a passé dans les fleurs, dit Valéry dans le cimetière marin. Bon, c'était une vision, qui intégrait la mort dans le grand cycle de la vie et qui donc l'a regardée, l'a fixée la mort. Hein. Mais aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, loin des autres, bardé souvent de tuyaux en plastique, au terme d'un acharnement thérapeutique qui montre bien, par parenthèse, l'hybris, c'est-à-dire l'orgueil démesuré, l'hybris de l'homme et le souci occidental de défataliser la vie. Et aussitôt la mort survenue, on l'escamote. La mort apparaît comme un échec qu'on n'admet pas et qu'on voile, car on en est honteux. Autrefois, après un deuil, on se mettait en deuil, on portait le deuil et puis le demi-deuil, d'un point de vue vestimentaire. Maintenant, je ne suis pas sûr que cela continue d'être un usage. Pareillement pour le vieillissement, on n'admet pas de prendre de l'âge. Les mères singent leurs propres filles, le maître envie son élève. Hein. C'est une société qui se veut éternellement adolescente. Hein. Et le vieillissement comme destin, l'entropie ou l'irréversibilité du temps ne sont plus des choses qui sont acceptées. On meurt jeune et bronzé, vous voyez. Hein. Alors, aucune maladie aujourd'hui n'est censée ne pouvoir trouver de remède. Hein. L'impatience est générale là-dessus et aucune des symbolisations de l'idée de limite qui sous-tendent les grandes cultures, aucune symbolisation de ce type n'est admise. On vit dans l'euphorie généralisée. Voilà, alors nous sommes aujourd'hui amnésiques, nous oublions beaucoup de choses. Hein. Je reprends le personnage d'Ortega y Gasset, le señorito satisfait. Hein. Ce fils de famille, cet héritier capricieux et ingrat, c'est un enfant gâté. Alors, on fait par exemple, ordinairement, un contresens sur l'idée de noblesse. Traditionnellement, est noble celui qui s'impose un but, un idéal plus élevé que ce qu'il est lui-même, par lequel il se sent jugé et parfois condamné. Noble est celui qui se donne des devoirs. C'est ce que marque le proverbe « noblesse oblige ». Et non pas celui qui se donne ou revendique des droits. Hein. Mais le fils de famille oublie qu'il n'a pas de droit, qu'il ne soit l'envers d'un devoir. Hein. Il ne pense qu'à jouir de ses droits. Et toute la tragédie de la noblesse héréditaire est là. La vraie noblesse, dit Molière dans Don Juan, ne consiste pas dans le nom que l'on porte, mais dans les actions que l'on fait, vous voyez. Et l'homme moderne ne fait pas réflexion aussi que droit et devoir sont inséparables. tout rapport entre les hommes repose sur un pacte tacite. Ce pacte est le suivant. Tout devoir crée un droit, et tout droit suppose un devoir. On ne peut pas penser l'un sans l'autre, et devoir une obligation dont la non-observation lèse l'autre partie entrant dans le contrat. Par exemple, les parents ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient en état de se suffire à eux-mêmes. En contrepartie, ils ont le droit d'être obéis de leurs enfants. Ces derniers ont le droit d'exiger l'assistance de leurs parents et le devoir de leur obéir. Je dis bien leur obéir, pas de les respecter, car le respect est un sentiment qui ne se commande pas. On dit très bien « inspirer le respect », vous voyez hein. Si je suis attaqué par un bandit, par exemple, j'ai le droit d'exiger du policier qu'il me vienne en aide et lui a le devoir de le faire. En contrepartie, si je commets une infraction, le policier a le droit de me sanctionner et j'ai le devoir de me conformer à la sanction. Donc vous voyez bien que droit et devoir sont indissolublement liés. Mais aujourd'hui, l'aveuglement ou la superficialité des esprits sont tels que le devoir apparaît souvent comme une limite insupportable, une part de destin à récuser dans la vie. On ne parle que des droits. On confond aussi liberté avec liberté de faire tout ce dont on a envie, en oubliant l'existence d'autrui. Et la formule, par exemple, « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » est peut-être, malgré sa banalité, bien sûr, la seule base de la morale. C'est ce que Schopenhauer indique dans « Le fondement de la morale hein. ».« Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ». Ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse, ne le fais pas à l'autre, vous voyez hein. En fait, dans cet oubli des devoirs, c'est la transcendance ou l'exigence envers soi-même qui est oubliée. On ne réclame que des droits. Hein. Et finalement, le contrat dont je parlais en commençant n'est plus de mise. L'autonomie, par exemple, l'autonomie, ce n'est pas le fait de s'affranchir de toute loi, mais d'être soi-même l'origine des lois que l'on se donne. Hein. Ce n'est pas s'abandonner au monde pulsionnel, au ça freudien, hein. Mais c'est se soumettre aux lois que l'on s'impose soi-même pour les discipliner, ses pulsions, ou pour les réprimer, vous voyez. Mais aujourd'hui, tout cela est intempestif au sens nietzschéen, c'est-à-dire n'est pas conforme à l'ère du temps. Hein. Nos droits, etc. Hein. Mais quid des devoirs ? En fait, on voit la vie aujourd'hui comme quelque chose de léger, la vie légère. Et la tâche qu'ont toujours eu les dispositifs symboliques des différentes cultures, c'est-à-dire d'illustrer, de justifier la transcendance ou bien une dimension d'exigence chez l'homme confronté à lui-même, l'autorépression aussi, hein, eh bien cette tâche est abandonnée. Et une fois que ces dispositifs ont été oubliés, l'homme moderne est amputé d'une essentielle dimension. Donc il fuit son propre destin, il fuit, comme le dit Ortega y Gasset, celui qu'il faut qu'il soit. Hein. Eh bien, le dernier homme au sens nietzschéen, ou bien l'homme masse au sens d'Ortega y Gasset, va végéter, suspendu fictivement, dans l'espace. Il se déprend de la culture au sens des traditions, parce qu'il n'a cure ni loisir de réfléchir sur elle. Simplement, il n'y pense plus. Il vit au gré des envies, de façon nomade, totalement amnésique. Pour lui, la géographie remplace l'histoire. On ne se rattache à aucun lieu et tous les lieux sont interchangeables. On se déplace incessamment, on effleure du regard les choses et le tourisme, par exemple, résume tout cela. Vous savez qu'il y a des poulets qu'on élève en batterie, comme on dit, hors sol. Eh bien, l'homme moderne est ainsi. Il est hors sol. Il arpente une terre qu'il n'habite plus, à laquelle il n'est relié par rien. Que ce soit le dernier homme de Nietzsche ou l'homme masse d'Ortega y Gasset, l'homme éminemment moderne, je dirais, c'est le touriste en Bermuda à Disneyland, vous voyez. Quant à l'esprit qui prédomine, c'est la légèreté, l'amusement, le jeu permanent. Il faut ressentir légèrement les choses, rien n'est grave, tout doit être amusant, tout doit être marrant, comme on dit aujourd'hui. Baudrillard parle ici de la fun morality, la moralité du fun. C'est vrai dire que l'éthos, c'est-à-dire la caractéristique essentielle de notre modernité, c'est précisément ce fun. Hein. Une chose qui n'est pas amusante n'est pas intéressante. C'est un comique léger qui permet d'affleurer tout, de ne rien ressentir profondément. Par exemple, rares sont les journaux ou les magazines dont les titres d'articles ne soient pas des jeux de mots, hein, comme si rien au fond n'était sérieux. Alors autrefois, les grands systèmes symboliques, quand ils étaient en vigueur, les grandes idéologies faisaient des militants, hein, mais aujourd'hui, le vide idéologique fait des surfeurs. Alors j'en parlerai dans une émission future, lorsque je parlerai de l'esthétique de la modernité, qui est le dernier chapitre de mon livre, le chapitre 13, hein. Mais déjà, je pose pour ce principe-là. Alors, bien sûr, je caricature, j'ai bien conscience que je caricature et que ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde. Mais enfin, disons que statistiquement parlant, il me semble évident que la vie est prise de façon légère et amusante et que la transcendance aujourd'hui y a disparu. Hein. Alors pourquoi ? Nous révérons la santé, disent les derniers hommes de Nietzsche. Hein. En effet, le dieu moderne, c'est le corps. Hein. Aujourd'hui, la santé et le corps sont les deux valeurs, si vous voulez, à quoi sont ordonnées les existences. Toute culture est une instance qui juge le corps. Mais aujourd'hui, le corps et la santé sont déifiés. Et depuis longtemps, le médecin chez nous a détrôné le prêtre. Hein. Nietzsche, dans le passage que j'ai dit lors de la dernière émission, dit « On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on révère la santé ». Voilà ce que dit Zarathoustra de Nietzsche. On se dispute encore, mais on se réconcilie bientôt, de peur de se gâter l'estomac. Vous voyez, rien ne tient devant la santé. Alors à Rome aussi, les Romains se saluaient en se souhaitant bonne santé. Ils disaient « Wale, porte-toi bien ». Tandis que les Grecs ne se souhaitaient pas la santé, mais se souhaitaient la joie de l'âme. Ils disaient « Kaire, réjouis-toi ». Vous voyez la différence entre une civilisation matérialiste et désublimée, la civilisation romaine, et une culture, au sens de Spengler, hein, dans le déclin de l'Occident, une culture où des valeurs profondes sont incarnées. Hein. C'est pas la même chose de souhaiter à quelqu'un « porte-toi bien » et de lui souhaiter la joie. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste de cette Rome matérialiste ? Il nous reste pas guère de grands temples. Bon, je sais bien, la maison carrée de Nîmes, c'est un temple intéressant, mais enfin, il s'agit d'imiter les formes grecques, le Parthénon par exemple, hein, sans forcément que l'esprit en soit préservé. Hein. Alors, de Rome, nous restent les aqueducs, les égouts, les cirques. Hein. Bon, les grands cirques pour le divertissement. Les aqueducs et les égouts pour le bien-être matériel, prendre des bains, etc. Hein, et le cirque pour s'amuser, vous voyez. Mais ce n'est pas la même chose de transmettre aux hommes futurs un Parthénon, hein, comme l'ont fait les Grecs, et de leur laisser un water closet, en quelque sorte. Hein. C'est vrai que lorsque un juif, par exemple, arrivait quelque part, il disait « bâtissons un temple à Yahvé hein. ». Mais les Romains disaient « bâtissons un water closet », en quelque sorte. Hein. Bon, ce que je dis du judaïsme vaut aussi, évidemment, pour l'hellénisme. Vous savez que pour Spengler, dans le déclin de l'Occident, il y a une différence entre une culture où des valeurs profondes sont incarnées, et une civilisation qui est l'extension matérialiste d'une culture. On prend les formes antiques, comme on l'a fait à Rome, mais on les vide de leur signification. Malraux l'a bien montré dans Les Voies du silence, une statue grecque et une statue romaine n'ont pas le même contenu spirituel. La statue romaine va imiter la forme de la statue grecque, mais n'a pas la même spiritualité. Alors, je reviens à cette idée d'un corps comme dernière instance. Eh bien, je dirais que la modernité, c'est la résurrection du bonhomme Chrysal de Molière. Hein. Prenez le jogger au Walkman, hein, qu'est-ce qu'il dirait s'il n'est rien d'autre que ce bonhomme ou ce petit bourgeois des femmes savantes de Molière. Voici ce que dit Philaminte, une femme savante qui veut préserver l'âme et l'esprit. C'est la même chose, une instance qui juge le corps. Philaminte, le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense, et ne devons-nous pas laisser cela bien loin ? Et Chrysal répond « Oui, mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin. Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère, vous voyez ?» Alors c'est l'opposition entre une vision spiritualiste et ambitieuse, si vous voulez, de la vie, hein, incarnée par Philaminte, et le matérialisme trivial incarné par Chrysal. Alors ce n'est pas parce que Molière s'est moqué des femmes savantes ou des précieuses ridicules qu'il faut, comment dire, prendre pour argent comptant cette satire, cette moquerie. Parce que si en regard nous n'avons que la perception de Chrysal, eh bien c'est bien dommage. Hein. Les précieuses voulaient justement civiliser la zone pulsionnelle de l'homme, hein, l'élever plus haut que l'endroit où elle se trouvait, vous voyez. Alors, Molière, bon, c'est vrai que Molière c'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas qu'il donne véritablement raison, hein, mais guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère. Vous savez, Platon disait, le corps est un tombeau, soma sema, hein, l'âme est dans le corps comme le papillon dans sa chrysalide, hein, et à la mort, eh bien, l'âme va s'envoler, hein, psyché, ça veut dire à la fois, psyché, l'âme et le papillon, hein, et là, la mort, justement, c'est le fait d'être délivré de ce tombeau du corps. Hein. Donc, l'ensomatose platonicienne, la descente dans le soma, dans le corps, hein, c'est une dégradation, une chute. Hein. L'incarnation platonicienne, l'incarnation, c'est une notion chrétienne. Hein. Cette ensomatose, c'est une chute. Mais notez aussi que la kénose, dans l'épître aux Philippiens, c'est-à-dire l'incarnation du verbe, c'est aussi une descente. Hein, une descente. Le plus important, c'est donc l'esprit, l'âme, le verbe, selon quelques mots que vous employez. Hein, quant au corps, c'est toujours d'une chute qu'il s'agit. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Hein. Le corps est la dernière instance. Hein. On sculpte son corps, on fait du bodybuilding, du jogging, etc. Dans une précédente émission, j'avais dit que le bodybuilder vous relevait de la formule 0% de matière grise. Hein. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, considérer le corps comme un tombeau dans lequel on est enseveli ne serait pas bien apprécié. Hein. Alors, je pense que l'homme unidimensionnel, comme le dit Marcuse, alors j'en parlerai lors de la prochaine émission du livre de Marcuse, l'homme unidimensionnel, hein, l'homme unidimensionnel des époques de désymbolisation, c'est-à-dire des époques où les constructions symboliques exigeantes existaient et étaient, intégrées dans l'âme, eh bien, cet homme unidimensionnel va idolâtrer son corps. Alors, est-ce qu'il sera plus alors qu'un tas de viande ou un paquet d'instincts, vous voyez ? C'est ce que dit Huxley dans un livre dont je mentionnerai l'existence lors de la prochaine émission. Eh bien, voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Bien sûr, prenez ce que je dis avec nuance. Je force le trait, je sais que je caricature, mais enfin, ce sont des directions que je veux indiquer. Hein. Ce passage d'une civilisation, d'une culture de l'âme à une civilisation du corps me semble quand même une transition intéressante à relever. Alors, écoutez, bonne santé quand même, mais surtout, bonne joie en vous. Rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.